VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guériec et Abdourahmane Dia en direct de la capitale américaine, jeudi 10 janvier 2019, Le Monde Aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel.
Et c'est une émission spéciale consacrée à la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi remporte l'élection présidentielle du 30 décembre en République démocratique du Congo.
Et d'après les résultats provisoires, la commission électorale lui crédite 38,57% des voix devant Martin Fayoulou, autre candidat d'opposition, deuxième avec 34,8%. Sa coalition, la Mouka, conteste les résultats.
Quant au candidat du pouvoir, Emmanuel Ramazani Shadary, il n'arrive qu'en troisième position avec 23,8%.
On fera donc le point avec nos correspondants à Kinshasa, mais également dans le reste du pays, les réactions de la classe politique congolaise et des électeurs.
Et on fera également des analyses et des réactions de la communauté internationale.
La République démocratique du Congo semble s'engager dans la voie d'une alternance historique avec l'annonce de la victoire à la présidentielle d'un opposant, Félix Tshisekedi. Écoutons la première déclaration du président élu du Congo devant ses militants au siège de l'UDPS quelques minutes après l'annonce de son élection.
Je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Aujourd'hui, je suis heureux. Heureux d'abord pour vous, base. Et à travers vous, je suis heureux pour le peuple congolais. Parce que ce processus électoral, tout le monde, il n'y avait personne en tout cas qui pouvait penser qu'il allait se dérouler dans le calme, dans la paix. Tout le monde pensait qu'on allait arriver à l'affrontement, aux violences, à l'effusion de sang. Personne ne pouvait imaginer un tel scénario, et surtout un scénario au cours duquel un candidat de l'opposition allait sortir victorieux. Voilà pourquoi j'en profite aussi pour rendre hommage à la CENI et à son président Corneille Nangaa, qui malgré les critiques, malgré les menaces, est resté imperturbable et est allé jusqu'au bout de sa logique. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que la vérité des urnes a triomphé. Je voudrais remercier aussi les candidats qui ont compéti avec moi, tous sans exception, mais principalement les deux autres grands candidats. Je pense ici à Martin Fayoulou et à Emmanuel Shadary. Je sais qu'en ce moment, que ce soit eux ou leurs partisans, ils sont traversés par la déception, l'amertume. Mais je voudrais les rassurer, pour leur dire que cette victoire est aussi la leur. Parce que je tiens à préciser que je serai le président de tous les Congolais. Je serai le président des Congolais qui m'ont élu et de ceux qui ne m'ont pas élu. Je ne serai pas le président d'une organisation politique qui est le CASH. Je ne serai pas le président d'un parti politique, l'UDPS, d'une tribu, la tribu des Louba. Je serai le président des Congolaises et des Congolais.
Voilà, c'était le président élu de la RDC, Félix Tshisekedi.
Et Martin Fayoulou, le candidat de la coalition Lamouka, lui, rejette les résultats proclamés par la CENI. Il parle de hold-up électoral. Idriss Fall l'a joint un peu plus tôt à Kinshasa.
C'est la honte. C'est la honte quand les gens se mettent ensemble pour voler la victoire du peuple congolais. Et c'est une honte, surtout quand on pense qu'une opposition participe à cette forfaiture. Nous disons que ce n'est pas possible. Nous ne reconnaissons pas ces résultats, étant donné que la CENCO aussi, la conférence épiscopale, vient de confirmer que ces résultats n'ont rien à voir avec les résultats qu'ils ont observés à la clôture des opérations de dépouillement.
Mais la CENCO n'organisait pas les élections, c'était bien la CENI, non?
Mais ce n'est pas parce que vous organisez les élections que vous devez faire n'importe quoi. La CENCO était observateur. La CENCO a observé, a vu les chiffres, comme tout Congolais qui a vu les chiffres affichés dans les bureaux de vote après les opérations de dépouillement. Et c'est comme ça que nous demandons à la CENI de donner la vérité. Nous connaissons cette vérité. On ne réclame que la vérité. On ne peut pas être organisateur des élections et tricher et dire autre chose.
Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déposer un recours?
Nous allons faire tout ce qui est dans le domaine du possible pour que la vérité des urnes soit connue. On ne peut pas voler la victoire du peuple congolais. Le peuple congolais a posé un acte. Le peuple congolais attend que son acte soit respecté. Il a voulu le changement. Il veut le départ de M. Kabila. Et M. Kabila ne peut pas aller par devers lui et nommer quelqu'un, même s'il est opposant. Alors là, c'est une conspiration contre le peuple. Et les gens se mettent ensemble pour pérenniser le système Kabila. Et c'est ça la honte. Et ça, c'est totalement inacceptable.
On a l'impression que dans ce sens, vous êtes soutenu par la France.
Mais on doit être soutenu par tout le monde. La CENI, comme je viens de le dire, la France l'a dit, Moussa Faki de l'Union africaine l'a dit dans le même sens. Donc aujourd'hui, toute personne éprise de justice et de paix ne peut que soutenir le peuple congolais.
C'était Martin Fayoulou, candidat de la coalition Lamuka.
Autre réaction, celle de Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, qui a été joint par Timothée Domnangmaï.
Nous sommes déçus, mais nous prenons acte de la décision qui a été annoncée par la Commission électorale nationale indépendante. Dès que la Commission aura publié la liste définitive des députés nationaux ce soir, nous verrons bien si notre centrale électorale mise en place depuis bien avant les élections pour confronter les résultats mis à la disposition du public par la commission électorale sont conformes aux données de la centrale électorale. Si tel n'est pas le cas, nous envisagerons des mesures juridiques quelconques. Mais si elles sont conformes aux données de la centrale électorale, nous prendront simplement acte de la décision de la centrale électorale.
Martin Fayoulou conteste les résultats publiés par la CENI et la conférence épiscopale catholique dit que ces résultats ne sont pas conformes à ce que ses observateurs ont recueilli sur le terrain. Qu'en est-il?
Martin Fayoulou a le droit de contester les résultats, les évêques catholiques également, mais ce sont des faits privés, vous savez. Les évêques catholiques ne sont qu'une association sans but lucratif comme des milliers d'autres en République démocratique du Congo. Je n'ai aucun commentaire à faire. S'ils ont des éléments qui peuvent venir à l'encontre des résultats que la Commission a rendus publics, ils n'ont qu'à les produire devant les instances habilitées. À mes connaissances, l'Église catholique n'a pas un statut officiel en RDC, à moins que vous vouliez lui en donner un.
Quel avenir pour le président Joseph Kabila, le chef de file de la coalition au pouvoir?
C'est un ancien président de la République, il est sénateur à vie, et c'est un gentleman d'honneur. Il n'a pas à se perdre, il va faire des activités, c'est un homme encore jeune, qui ne va pas certainement mourir, parce qu'il y a 18 ans qu'il a exercé le mandat de président. Il est arrivé à un âge très jeune et je pense qu'il va prendre un repos bien mérité, c'est tout ce que je peux dire. Pour le reste, lui seul peut décider de ce qu'il veut faire de sa vie.
Il est jeune, vous l'avez dit. Est-ce qu'il est possible qu'il se représente à la présidentielle?
Ce n'est pas mon problème, ni le vôtre, c'est le sien. Il faut lui poser la question.
Voilà, c'était Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
Et nous avons justement dans ce studio Timothée Donangmaï, le chef du service francophone de la VOA. Tim, bonsoir.
Bonsoir, Abdou.
Alors, les résultats sont tombés finalement et voilà, on a un nouveau président élu en RDC. C'est quand même très important, même si le processus n'est pas totalement terminé, qu'il y a des contestations. C'est tout de même... C'est très important, c'est très significatif, non?
Tout à fait, Abdourahman. Il faut lire ces élections congolaises à deux niveaux, au plan national congolais. Il y a toutes ces controverses qui tournent autour des résultats. Et c'est tout à fait normal lors des élections dans tous les pays du monde. Il y a toujours ces disputes entre les candidats qui contestent les résultats. Mais quand on voit au plan régional en Afrique centrale,
c'est un signal fort. C'est un président qui va partir, qui sera remplacé par quelqu'un d'autre, quelqu'un de l'opposition.
Ça ne se voit pas souvent. 1960 dans ce pays.
Dans ce pays. Et on avait vu avant ça en Angola à côté où quelqu'un du même parti a succédé au président sortant. Ici à RDC, c'est un opposant qui va succéder au président en place, au président Kabila. Donc c'est un signal fort, surtout dans cette région d'Afrique centrale où le terme alternance a du mal à s'inscrire dans le dictionnaire local.
La CENI tire son épingle du jeu ou vous pensez que... Parce qu'après tout, il y a eu élection et... Voilà, c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord sur le comment ça s'est déroulé, mais quelle est votre appréciation de...
Abdourahmane, il faut dire que c'est presque miraculeux, parce que à plusieurs reprises, on a pensé que ces élections congolaises n'auraient jamais lieu. On a eu cet incendie dans l'entrepôt de la CENI à Kinshasa, qui avait détruit quelques 8000 machines à voter. Et dans un premier temps, on nous a dit que cela n'aurait pas d'impact. Puis on est revenu, la CENI est revenue pour décaler les élections, passer du 23 décembre au 30, ce qui avait fait douter de la capacité de cette CENI-là à organiser les élections. Ajouter à cela le fait que la RDC ait décidé de se passer de tout soutien dans ces élections de 2018. Donc tout cela faisait sérieusement douter de la capacité de la CENI à organiser cette élection. Maintenant, on est là, on a les résultats et c'est quand même quelque chose de remarquable.
Et on passe à la prochaine étape qui est celle de peut-être des recours et autres. On verra ce qui va se passer d'ici le 15 janvier. Morgane, je pense qu'on a encore des réactions.
Oui, on part donc à Kinshasa hein, où on retrouve le journaliste Francis Kabuya.
Bonsoir Abdourahmane Dia, bonsoir chers auditeurs de la VOA.
Alors, quelle est un peu la situation à Kinshasa? Est-ce que c'est toujours l'effervescence?
Oui, la situation à Kinshasa, elle est plutôt calme en cette soirée, mais on rappelle que depuis 3 heures du matin, c'était des liesses populaires, notamment ici à Kinshasa, dans la commune de Limete, le chef de l'UDPS, à Lemba et Angaba. Et présentement, je suis encore à Matongé, c'est encore la fête, les gens n'en reviennent pas, c'est Félix Tshisekedi qui est président de la République proclamé. Et comme vous le savez, ici à Kinshasa, il y a toute cette polémique. Ici, il y a la liesse, mais à l'intérieur, on a signalé quelques violences à Kisangani et voilà. D'autres violences également dans les Bandundu. Quelques partisans de Martin Fayulu sont sortis pour protester contre les résultats donnés par la CENI. Eh bien, Félix Tshisekedi n'a plus d'autre choix et son camp que de demander à Martin Fayulu de se référer à la Cour constitutionnelle. Martin
voilà,
Fayulu
merci.
Parle d'un putsch électoral.
Voilà, on vient de l'entendre d'ailleurs.
Le 10 août.
Voilà, c'était donc le journaliste Francis Kabuya.
Voilà, et puis autre réaction, hein, celle de la CENCO, on le disait plus tôt, la CENCO qui estime que les résultats publiés par la CENI ne correspondent pas aux données en sa possession. Et Eddy Sango a joint à Kinshasa le chargé de la communication de la CENCO, l'abbé Jean-Marie Bomengola.
Ce qui diffère, c'est que je crois que la personne qui est proclamée, hein, je crois que c'est d'après les données dont nous disposons, c'est autre chose. Hein, c'est ce qui a été proclamé.
Mais est-ce que la CENCO avait toutes les données ou avait fait par endroit des projections? Parce que peut-être que la CENI a réuni toutes les données possibles.
Bon, la CENCO avait mis à la disposition des différents bureaux 40 000 observateurs et aussi elle a travaillé en synergie avec d'autres missions d'observation pour compléter les données qui lui manquent. Okay, quoi. Alors, en fonction de cela, elle a trouvé que les données dont elle dispose ne correspondent pas avec ce que la CENI a mis sur la place publique, notamment par rapport à l'élection présidentielle.
Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette différence? Certains parlent des arrangements politiques. Est-ce que vous pensez que ça va dans ce sens-là?
Bon, les arrangements politiques, c'est l'IDPS elle-même qui a reconnu qu'avant la publication des élections, le président de la République avait reçu M. Félix Tshisekedi et Marc Kabounda a déclaré que c'était pour une passation, après préparer un peu la passation civilisée du pouvoir. Bon, il y a des gens qui pensent qu'il y a eu des arrangements au pouvoir. Bon, on en parle, on n'a pas de preuves, hein, mais c'est ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des tractations entre l'IDPS et les chefs de l'État.
Est-ce que la CENCO serait prête à mettre à la disposition, par exemple, de la Cour suprême ou constitutionnelle ces procès-verbaux, ces preuves pour remettre la vérité en place?
Il ne revient pas à la CENCO parce que la CENCO n'est pas candidate aux élections. Ce sont les candidats aux élections qui doivent saisir les cours et les tribunaux et aussi présenter leurs moyens de défense. Alors, si ces gens-là recourent peut-être à la CENCO pour demander ces preuves-là, peut-être, mais ce n'est pas à la CENCO d'aller dans les cours et tribunaux présenter ces moyens-là. Je crois que ce n'est pas dans son rôle ou dans sa mission.
Vous lancez un appel pour demander à la population ou aux Congolais de rester calmes, mais quelle sera la conséquence? Est-ce que la vérité doit être rétablie ou pas? Mais comment doit se comporter les Congolais maintenant?
Il y a les cours et tribunaux. En principe, après la publication des résultats, nous entrons dans la période des contentieux. Et donc, c'est aux candidats qui sont lésés dans leurs droits de présenter leurs moyens de défense et puis de saisir les cours et tribunaux. Et c'est à ce niveau-là que les choses vont se jouer maintenant, quoi.
C'était l'abbé Jean-Marie Bomangola, le chargé de la communication de la CENCO.
Et nous retrouvons à Lubumbashi notre correspondant Narval Mabila. Bonsoir Narval.
Bonsoir Morgane.
Alors comment l'annonce de ces résultats a-t-elle été accueillie à Lubumbashi?
Voilà, et déjà vers 4 du matin de l'annonce, la publication des phrases ont été en lien. Depuis 4 heures, les gens se sont retrouvés devant la grande place de la Poste et à plusieurs endroits du centre-ville. Les gens ont fêté beaucoup plus, fêté les militants plus de l'IDPS qui étaient au centre-ville et dans plusieurs endroits. Mais ce qui était vraiment très marquant et pour les Lufois, c'est de voir les femmes être nues pour manifester la joie dans plusieurs endroits et dans plusieurs villes, a été signalé ça, à Colombie, dans plusieurs autres communes, ça s'est passé de cette manière-là. Mais très marquant pendant la journée, ça c'est dans la ville de Likasi où il y a eu des incidents entre la communauté du nouveau président, la communauté kassaïenne, qui plus exprimait la joie d'être des concurrents, d'avoir conquis les Katangais. Et cela, les autres n'ont pas apprécié. Il y a eu des incidents, il y a eu deux morts, une femme et un homme, suite aux échanges entre ceux du Katanga et ceux du Kassai. Et c'est dans cette ambiance pour les militants de l'UDPS, certains se disent, bon voilà, c'est maintenant les Katanga qui est conquis par rapport à l'histoire que vous connaissez très bien. Des années 90, il y a eu, on avait chassé ou refoulé les Kassaïens. Et voilà, ça c'est peut-être pour la revanche. Ils disent, voilà, nous avons maintenant un président élu et que voilà, nous sommes revenus et que personne ne peut bouger ou faire quoi que ce soit. C'est cette tension qu'il y a entre ces deux communautés, donc ces deux frères. Mais dans l'ensemble, Lubumbashi ou les Katanga attendaient plus que l'élection de Martin Fayulu. Mais bon, voilà, c'est un peu cette déception. Un bon nombre de gens restent à la maison. Et maintenant, présentement, ça, c'est presque calme. Et les gens sont enterrés chez eux à la maison. On ne sait pas demain ou après-demain. Ça pourrait toujours barder entre ces deux camps.
Merci beaucoup, Narval Mabila, qui est notre correspondant à Lubumbashi.
Et de Lubumbashi, on va à l'est du pays, notamment à Bukavu, où notre correspondant Ernest Mouyero a tendu son micro à Maître Arnold Nyaluma. Il est avocat au barreau de Bukavu et il est également doyen de la faculté de droit à l'Université catholique de Bukavu.
Pour Bukavu, nous savons que c'est Vital Kamerhe qui a porté le flambeau. Et donc, lorsque Félix Tshisekedi est élu, cela apparaît comme une victoire à Bukavu de Félix et de Vital Kamerhe. Je vois dans cette victoire une victoire du peuple. Mais je voudrais qu'on arrive à Kikwit et qu'on ait la même joie parce que, quoi qu'il arrive, nous n'avons plus ce pouvoir qui, pendant 18 ans, nous a placés dans une sorte de prison à ciel ouvert. Donc, pour moi, ça aurait été Félix Tshisekedi ou Fayulu ou même quelqu'un d'autre, mais qui ne soit pas du pouvoir, cela démontre effectivement que les gens ne sont pas d'accord avec la manière dont ils ont été gérés. Nous sommes en présence d'un véritable refus, d'une vraie sanction de notre gouvernance. Rien qu'à voir l'état de la voirie, le niveau de la pauvreté, le niveau de sécurité, le degré de libertés individuelles, le nombre de gens en prison, c'est contre tous ces méfaits que les gens se sont révoltés. Et c'est là le message que je lance aussi bien au chef de l'État qu'à tous les députés qui ont été élus. Le défi est grand. Le niveau d'espoir est tellement élevé que si très rapidement on n'a pas de réponse aux questions fondamentales comme la prise en charge de l'école, des soins de santé, comme la question de Béni, où les gens sont tués jusque même à être privés de leur liberté, si nous n'avons pas de réponse immédiate à ces questions, la déception risque de prendre la même ampleur. Je souhaite que très rapidement, le corps de Étienne Tshisekedi soit rapatrié et qu'il obtienne non seulement des obsèques dignes de son nom, mais qu'il soit inscrit comme les héros de la démocratie. Je souhaite également que le Congo prenne avec sa mesure l'honneur que nous avons reçu d'accueillir un prix Nobel et que le chef de l'État qui entre en fonction puisse le décorer, puisque c'est aussi un prix du peuple congolais. Naturellement, je pense à tous les amis qui sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont sollicité que les élections aient lieu. Je souhaite que le plus tôt possible, ils soient également rétablis.
C'était Maître Arnold Nyaluma du barreau de Bukavu au micro d'Ernest Mouero.
L'Union africaine appelle les contestataires des résultats donnés par la CENI de s'abstenir de la violence pour leurs revendications. Elle conseille de suivre les voies légales et de préserver la quiétude sociale. Éric Manirakiza a joint à Addis Abeba le porte-parole de la Commission de l'Union africaine, Eba Kalondo.
On réitère nos félicitations au peuple et à la société civile et les institutions justement de la RDC pour la tenue de ces élections et aussi dans les conditions qui étaient jugées satisfaisantes par la mission d'observation électorale de l'Union africaine qui était dirigée par le président Diankoumba Traoré. Donc l'Union africaine souligne la nécessité pour tous les acteurs concernés d'agir d'une façon à consolider la démocratie et préserver la paix dans le pays. Et c'est aussi justement dans ce contexte qu'il est important que toute contestation de ces résultats provisoires proclamés, notamment celles portant sur leur non-conformité avec la vérité des urnes, se fasse pacifiquement et par le recours aux procédures prévues par les textes en vigueur dans le pays et par le dialogue politique entre toutes les parties.
Il y a eu déjà quelques contestations à l'intérieur du pays, notamment des partisans de M. Fayulu. Est-ce que l'Union africaine va s'impliquer pour s'assurer qu'il n'y ait pas une nouvelle crise?
Quelle que soit l'issue définitive des élections, puisque nous sommes toujours au résultat provisoire, la recherche d'une véritable consensus national doit tomber sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme.
Il y a par exemple la CENCO qui dit avoir des résultats qui ne correspondent pas nécessairement aux résultats donnés par la CENI.
Nous n'avons pas vu ces résultats. Peu importe, le CENCO est un acteur de la société civile importante et qui a joué un très grand rôle pour faciliter justement et accompagner le peuple congolais dans ce processus électoral. Et c'est un rôle qu'il faut louer parce que le CENCO était vraiment un des meilleurs acteurs dans la médiation pour l'accord de France. Dans ce sens-là, c'est un acteur majeur de la société civile, une valeur statutaire, institution de pays qui peut proclamer la conduite d'une élection, c'est la Commission électorale nationale indépendante, la CENI.
Voilà, c'était Eba Kalondo, porte-parole de la Commission de l'Union africaine.
Voilà, donc vous suivez toujours cette édition spéciale sur la République démocratique du Congo. Avant de nous quitter, Timothée Donangbaï, le 15 janvier est également une date très importante. La Cour constitutionnelle doit valider les résultats provisoires avant l'investiture du 18 janvier. C'est quand même, on a encore quelques jours. Qu'est-ce qui peut se passer selon vous?
Alors, Abdourahman, ça fait partie du processus électoral. Donc, c'est le 15 que la Cour constitutionnelle va se prononcer sur la validité des résultats de ces élections du 30 décembre. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'il en sera. Mais une chose est sûre, Tous les observateurs, toute la communauté internationale appelle les acteurs politiques congolais à suivre ce processus jusqu'au bout. Préserver la stabilité du Congo.
Voilà, vous étiez en direct, Timothée Donangmae. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous ont suivis. Merci à Michel Joseph, édition spéciale RDC. C'est terminé. Dans quelques secondes, on fait juste un point, un tour d'horizon du reste de l'actualité dans le monde avec vous, Morgane Guériec, qui nous a également accompagné tout au long de ces trois éditions. Merci.
République centrafricaine, au moins deux policiers ont été tués, un autre a été blessé ce jeudi dans des affrontements entre l'armée et un groupe armé à Bambari. C'est ce qu'annonce le porte-parole du gouvernement centrafricain. La presse locale faisait état aujourd'hui d'une dizaine de morts sans qu'il soit possible de confirmer ce bilan. 30 blessés par balle ont été pris en charge par Médecins sans frontières à l'hôpital de la ville, c'est ce qu'a indiqué l'ONG aujourd'hui. Des éléments de l'UPC et leurs alliés ont lancé diverses attaques dans la ville de Bambari, indiquait le gouvernement dans un communiqué, et la mission de l'ONU, la MINUSCA, a envoyé des éléments vers le centre-ville, a précisé son porte-parole. Concernant la RCA toujours, le chef d'état-major des forces armées centrafricaines a suivi une formation en Russie dont l'influence est grandissante dans ce pays ravagé par des combats incessants entre groupes armés, c'est ce qu'a affirmé la ministre de la Défense. L'armée nigériane a fait son retour à Baga, ville stratégique sur les ports du lac Tchad après des attaques de Boko Haram ayant forcé des dizaines de milliers de personnes à fuir leur foyer selon des sources civiles et militaires. Selon l'ONU, plus de 30 000 personnes se sont réfugiées dans la ville garnison de Monguno et à Maïdougouri, la capitale du Borno, alors que l'armée préparait une contre-offensive. Soudan, trois personnes sont décédées à la suite d'une manifestation anti-gouvernementale près de Khartoum, quelques heures après un rassemblement pro-régime. Cela porte, selon un bilan officiel, à 22 le nombre de morts dans le cadre du mouvement de contestation provoqué par la hausse des prix du pain et les pénuries depuis le 19 décembre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, au Yémen, les rebelles houthis ont lancé une attaque de drones contre l'armée loyaliste dans le sud du pays, au moment où l'ONU demande aux belligérants des progrès réels pour parvenir à la paix. L'attaque a fait 6 morts parmi des militaires et a blessé 12 autres personnes, dont des officiers et des responsables provinciaux, selon un hôpital local. Et Syrie, le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham, dominé par l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, a renforcé son emprise sur l'ultime grand bastion insurgé à la suite d'un accord mettant fin à plusieurs jours de combats meurtriers avec des factions rivales. La province d'Idleb a fait l'objet en septembre d'un accord entre Ankara, soutien des rebelles, et Moscou, parrain du régime syrien. La Turquie devait contenir les factions rebelles et djihadistes afin d'empêcher une offensive de Damas et de son allié russe sur cette province du nord-ouest de la Syrie en guerre. Le chef de la diplomatie américaine en Égypte, Mike Pompeo, a appelé les pays du Moyen-Orient à dépasser les vieilles rivalités pour contrer l'Iran en niant le désengagement américain dans la région malgré l'annonce du retrait militaire de Syrie. Le secrétaire d'État a cherché à démontrer la cohérence de la stratégie régionale des États-Unis alors que le président Donald Trump annonce ce retrait des forces américaines. Monsieur Pompeo a plaidé pour une Amérique revigorée qui serait selon lui une force pour le bien du Moyen-Orient. Le ministre iranien du pétrole a rejeté les sanctions américaines illégales au lendemain d'une visite du secrétaire d'État Mike Pompeo qui a pressé l'Irak de cesser de dépendre de l'Iran pour son approvisionnement énergétique. Il faut dire que Bagdad a obtenu des États-Unis une exemption de 90 jours afin de continuer à importer de l'énergie iranienne dont il est très dépendant malgré de nouvelles sanctions américaines entrées en vigueur début novembre. Le président américain Donald Trump a annoncé aujourd'hui qu'il ne participerait pas au Forum économique mondial de Davos du 21 au 25 janvier en Suisse si la paralysie partielle de l'administration fédérale se poursuivait. Et enfin, au Venezuela, le président Nicolas Maduro a prêté serment pour un deuxième mandat de 6 ans contesté par l'opposition et une partie de la communauté internationale. Les États-Unis ne reconnaîtront pas la légitimité du président vénézuélien fraîchement réélu Nicolas Maduro et augmenteront la pression sur son régime, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale et à la Maison-Blanche, John Bolton. C'est la fin de cette édition spéciale sur la RDC, à la mise en onde de Michel Joseph, présentation Morgane Guerrier et Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui, où on reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h24. Au revoir.